France Culture, les matins du samedi, Quentin Laffey.
Maryse Condé est décédée cette semaine à l'âge de 90 ans. L'écrivaine guadeloupéenne francophone lègue une œuvre riche, protéiforme, une œuvre de l'adversité et de l'affirmation, ancrée dans l'histoire, la sienne et celle des peuples noirs, ainsi que dans les territoires où elle a vécu, l'Afrique de l'Ouest, les États-Unis, l'Europe. Récompensée dans le monde entier, son travail littéraire lui a valu de recevoir en 2018 le prix Nobel alternatif de littérature. Alors pour saisir la portée de son œuvre, la singularité de son travail sur la langue, pour mesurer aussi la force des thématiques qui traversent ces livres, je reçois ce matin deux invités. Françoise Vergès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue à l'université Berkeley. Vous avez écrit un documentaire, on y reviendra, sur la vie et l'œuvre de Maryse Condé. Et à vos côtés, Romuald Foncoua, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature à Sorbonne Université, rédacteur en chef de Présence africaine. Et pour commencer, Françoise Vergès, qu'est-ce qui vous accompagne, qu'est-ce qui continuera de vous accompagner dans l'œuvre de Maryse Condé?
Bon, déjà le souvenir, son souvenir, c'était une amie. On a cheminé ensemble à plusieurs choses. Donc déjà le souvenir d'une amitié, c'est quelqu'un qui cultivait l'amitié vraiment. Et puis vraiment cette œuvre forte et singulière, vraiment singulière, cette curiosité qu'avait Maryse Condé de nous ouvrir tellement de portes. C'est ça, cette la curiosité, pour moi, est quelque chose de formidable, qui ouvre beaucoup de portes. Donc, tous ses livres, pour moi, toute son œuvre, en fait. Il n'y a rien de particulier pour moi.
Cette singularité, néanmoins, comment est-ce que vous la définiriez, s'il fallait la détailler pour celles et ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette œuvre-là?
Maryse était une grande conteuse. Elle attrapait quelque chose, une histoire, un fait divers parfois, et elle le transformait. Elle en racontait l'histoire. Elle a repris, par exemple, les hauts de l'Urvan dans les Caraïbes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Elle a Tituba, sorcière noire de Harlem. Donc, elle découvre que parmi les sorcières qui ont été brûlées à Salem, il y a une femme noire. Qu'est-ce que c'est? Elle fait revivre à la fois des personnages, elle en évoque d'autres. Elle évoque sa grand-mère, qui était cuisinière. Elle parle de sa vie aussi. Elle va parler de sa vie, elle va faire écrire. Donc, je pense que la lire, c'est lire une écriture, enfin, je veux dire, avoir accès à une écriture qui aborde tant de thèmes et en même temps, comme vous l'aviez dit, questionne toujours l'histoire des peuples noirs et d'une femme noire.
Romuald Foncoua, ça résonne pour vous de la même façon? Comment est-ce que vous définiriez cette singularité?
C'est la singularité d'abord d'une femme qui est toujours en pleine interrogation. Interrogation d'elle-même en tant que femme noire, en tant que femme guadeloupéenne. Son interrogation de l'Afrique, femme venue d'Afrique quelque part, et ça va, c'est un fil conducteur en fait de son œuvre, et son interrogation de citoyenne de la République française. Et je pense que toutes ces questions-là sont des questions que l'on peut retrouver à la fois dans son engagement politique, dans son œuvre littéraire et dans sa trajectoire universitaire. Et que ce soit en Afrique, que ce soit en France, ou bien que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans ses essais, ou bien que ce soit dans ses romans, il y a toujours toutes ces questions-là qui reviennent. Et comme disait Françoise tout à l'heure à propos de sa façon de saisir en fait les événements, je crois que c'est quelqu'un qui était très sensible, mais d'une hypersensibilité et d'une sensibilité même maladive. Quand on la connaissait très bien, elle avait des amitiés ou des inimitiés. Chez elle, c'était très clair, la loi du tiers est exclue. Ou elle aime ou elle déteste. Et donc du coup, quand elle aime toujours, jusqu'au bout. Quand elle déteste jusqu'au bout. Et donc son œuvre aussi est faite à peu près comme ça. Ses engagements sont faits comme ça, et y compris sur la Guadeloupe, y compris sur la langue créole, y compris sur la langue française, y compris sur le roman, y compris sur l'histoire, et en particulier l'histoire de l'esclavage, elle était avec ou elle était sans. Et je crois qu'avec elle, la loi du tiers était vraiment exclue.
Alors on va essayer de comprendre pourquoi, les raisons qui l'ont poussée peut-être à entrer en littérature.
Tout le monde a l'impression de vivre seul, de ne pas pouvoir tellement communiquer, d'être toujours à l'intérieur d'un monde que les autres ne peuvent pas pénétrer. Je crois que c'est l'expérience la plus partagée au monde, la solitude. créer, c'est une façon de se rapprocher des autres. Donc, quand vous vous sentez très seul comme ça, vous avez envie d'écrire pour dire aux gens des choses que peut-être ils n'auraient pas facilement l'intention de connaître ou de découvrir. Donc, je crois que sans solitude, il n'y aurait pas de création. Toute forme de création dérive de ce besoin, de cette peur de ne pas pouvoir échanger avec les autres.
C'est pour ça que vous avez écrit, vous ?
Je crois. C'est difficile de s'analyser avec clarté, de dire pourquoi on écrit. Enfin, je crois que la plupart des gens qui écrivent répondent à cette peur.
Marie Scondé, dans Hameau découvert sur Radio Bleu, au micro de Sylvie Nicolet, c'était en 1995. Françoise Vergès, la raison première pour laquelle Marie Scondé entre en littérature, c'est cela, c'est ce qu'elle vient de décrire, percer la gangue de la solitude et faire entrer les autres dans ses univers.
Elle le dit dans les quelques textes qu'elle livre sur elle-même, sur sa vie, d'une femme qui s'est quand même qui s'est affrontée à des tas de choses, quoi. Je veux dire, il y a un moment, elle est avec ses quatre enfants, elle est seule, elle passe d'un pays à l'autre en Afrique. Et oui, il y a des moments pour elle de solitude, où elle se disait quand même, il y a un moment, alors qu'elle a été très accompagnée, elle a été, je veux dire, son époux et compagnon Richard étaient vraiment très, ils étaient inséparables, mais il y avait quelque chose en elle, oui, d'un sentiment qu'elle était seule.
Je voulais partager avec vous l'anecdote qu'elle donne au début, justement, d'un texte autobiographique qui s'intitule « La vie sans phare » et que je vous livre. Dans mon récit de souvenirs, le cœur à rire et à pleurer, conte vrai de mon enfance, je raconte comment ma vocation d'écrivain, si on peut employer pareil terme, aurait pris naissance. J'aurais environ 10 ans. C'était, semble-t-il, un 28 avril, jour de l'anniversaire de ma mère que j'idolâtrais, mais dont le caractère singulier, complexe et fantasque ne manquait pas de me déconcerter. J'aurais donc élaboré une composition, mi-poème, mi-scénette, où je me serais efforcé de peindre les multiples facettes de sa personnalité, tantôt tendre et sereine comme brisée de mer, tantôt moqueuse et grinçante. Ma mère m'aurait écouté sans mot dire, tandis que je paradais devant elle, vêtue d'une robe bleue. Puis elle aurait levé sur moi les yeux de ma stupeur remplie de larmes et aurait soufflé « C'est ainsi que tu me vois ». J'aurais éprouvé à ce moment-là un sentiment de puissance que j'aurais acheté et cherché à revivre, livre après livre. Fin de citation. Est-ce que dans le fond, Romuald Foncoy, ce sentiment de puissance, c'est ce qu'elle a cherché à vivre et revivre, à écrire et réécrire tout au long de sa carrière ?
Est-ce qu'elle l'a cherché ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a éprouvé ? C'est possible. Et elle le dit très bien dans l'entretien l'extrait que vous venez de faire passer. Je pense que elle a découvert qu'elle était écrivaine le jour où elle s'est rendue compte du succès de son premier grand roman, à savoir Ses goûts, le premier volume. Et savoir si Marie Scondé est une grande écrivaine, c'est découvrir dans le métro parisien quelqu'un que vous ne connaissez pas en train de lire Ses goûts. Et ce qui m'est arrivé, et c'est là que je constate en fait que c'est une grande écrivaine. Mais elle aussi, je pense que ça a été une surprise pour elle, de découvrir qu'elle était capable, par l'écriture, de fasciner. De fasciner qui ? Ben de fasciner sa mère. D'attirer l'attention de sa mère. Alors, le rapport à sa mère est un rapport qui est absolument évident dans son œuvre. Vous en avez donné un extrait, mais on peut en trouver un autre dans Victoire, les saveurs et les mots. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au fond, elle a écrit, je pense, pour attirer l'attention de sa mère sur elle. Pas de son père, de sa mère. Et c'est assez constant. Et c'est cette attention-là qu'elle a voulu, en fait, faire aux autres. C'est-à-dire que sa mère soit fascinée par ce qu'elle est comme jeune fille. Que sa mère soit fascinée par ce qu'elle peut être comme écrivaine, ça a été chez elle toujours en fait une constante. Et ça revient assez régulièrement en fait dans son œuvre, de façon insidieuse. Il y a toujours ce rapport, en fait, ce rapport à la mère, donc un rapport à la grand-mère, donc un rapport à la gent féminine, dont elle se réclame au fond dans toute son œuvre.
Alors revenons justement avec vous, Françoise Vergès, sur ses origines, sur cette histoire familiale. Elle est complexe, Marie Scondé, elle naît dans une famille guadeloupéenne assez conservatrice, assez centrée sur un tout petit milieu. Est-ce que vous pourriez nous le décrire ?
Oui, elle en parle, elle le raconte que chez elle, il était donc dans sa famille, il était question de... Il n'y avait personne d'autre, personne n'était à la hauteur de sa famille. Donc ni les Noirs, ni les Mulattes, dit-elle, ni les Blancs, enfin je veux dire, voilà, ça suffisait.
On se demande d'ailleurs qui y reste, mais...
La famille famille. La famille. Et elle, donc elle vit dans un milieu assez fermé. Elle le dit que finalement, c'est en arrivant en France et en ayant une amie dont le père est un historien marxiste, qu'elle découvre l'histoire même de la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'en fait, si ses parents sont là, c'est qu'il y a des ancêtres qui ont été attrapés et déportés d'Afrique. Et c'est assez intéressant de voir que elle arrive jusqu'à un certain âge sans savoir finalement d'où elle vient. Et ce côté de cette famille, elle va évidemment en parler parce que c'est aussi, elle est intéressée par la production de ce genre de famille, si vous voulez, dans un endroit comme la Guadeloupe, ou on peut le voir aussi pour la Martinique ou à la Réunion d'ailleurs, où finalement la construction de soi et de la famille, c'est de se mettre en dehors de la société et de l'histoire. C'est comme ça qu'on peut protéger quelque chose. Mais de fait, pour les enfants, quand ils découvrent l'histoire, c'est l'étonnement et aussi se poser la question de ce silence, de cet effacement. Pourquoi à tel point?
Sans savoir d'où elle vient, dites-vous Françoise Vergès, on a l'impression que c'est la grande question qui traverse ses livres, son œuvre. Elle le dit, elle le répète à plusieurs reprises quand elle parle d'elle-même. Sans savoir d'où elle vient, elle a le sentiment qu'on lui a caché d'où elle venait, qu'on lui a caché l'histoire de la Guadeloupe, qu'on lui a caché l'histoire de cette région. Pourquoi est-ce qu'elle a ce sentiment-là et pourquoi ça l'obsède ?
Ben parce que quand on vient d'un pays comme le sien, ou moi je pourrais parler de la Réunion, ça n'existe pas d'une certaine manière. Il y a un nom, il y a une île, mais on n'existe pas. Et on ne fait pas partie de l'histoire, de ce qu'on appelle la grande histoire. Et donc on se dit, mais enfin quand même, on existe. Je veux dire, il y a une présence. Et pour elle, ça sera vraiment important. Elle le dit quand elle reçoit le prix Nobel de littérature alternative. Elle le dit. Je suis très heureuse et très 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 honorée d'avoir mis mon petit pays à l'honneur. C'est à ce moment-là, c'est la Guadeloupe qui lui vient en tête, je veux dire, qu'elle veut saluer.
Plus que la France ?
Ah oui, oui, oui.
Romy Alfonkawa, elle vient en France, elle arrive en France pour faire ses études, elle arrive au lycée Fénelon pour entrer en Hippocagne-Cagne, et c'est là qu'elle découvre, dans le fond, dit-elle, elle le raconte là aussi à plusieurs reprises, qu'elle est noire. C'est face à l'autre, à Paris, qu'elle réalise sa couleur de peau. Pourquoi ? Comment ça s'est passé ?
Comme tous ceux qui viennent de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, et même de l'Afrique noire, pour certains, la France métropolitaine, et Paris en particulier, est une sorte de lieu de révélation. C'est la révélation de la couleur, c'est la révélation de la différence historique, c'est la révélation de l'identité. Mais Paris, c'est en fait, pour reprendre une expression que j'emprunterai à Édouard Glissant, mais c'est Paris, c'est la ville qui diffracte tout. Et effectivement, ça diffracte y compris les croyances que les Antillais avaient d'eux-mêmes. Ça diffracte l'idée selon laquelle on est Antillais, on n'est pas Français. On est Antillais, on n'est pas Africain. On est Antillais, on a une identité qui est une identité particulière qu'il faudrait absolument reconstituer. Et ce n'est peut-être pas un hasard si la plupart des intellectuels antillais découvrent dans les grands lycées parisiens, et Fénelon en est un, la différence exacte d'identité. C'est-à-dire qu'en gros, on est étudiant, oui, on est élève de classe préparatoire, mais on n'est peut-être pas comme les autres. Et on n'est pas comme les autres parce qu'on n'a pas la même histoire qu'on ne nous a pas racontée. On n'est pas comme les autres parce que l'histoire qu'on nous a racontée est fausse. Et évidemment, quand vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est la France qui l'intéresse ? Je répondrai oui et non. Enfin, c'est la France qui l'intéresse si on veut, parce qu'elle est française, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça qu'on lui a enseigné l'histoire. Mais elle découvre qu'en fait, elle est française sans l'être vraiment. Et qu'il y a une partie, en fait, de la francité, ou bien de la francitude, pardon, de ces expressions, qu'on ne lui a pas enseignée, c'est la dimension de la couleur, c'est la dimension noire. Un peu comme si, effectivement, ni l'esclavage, ni la colonisation n'avaient existé. Pour ceux qui arrivent en France. Mais pour les Français, c'est vrai que ça n'a pas existé. Mais pour les Antillais, c'est l'essentiel de leur histoire. Donc évidemment, il y a ce décalage entre la France métropolo-centrée, hexagono-centrée, et l'autre France, la France coloniale, la France esclavagiste ou esclavagisée, mais qui en fait sont deux Frances totalement différentes. C'est pourtant la même. Et pour les Antillais, c'est une vraie révélation. Je crois que pour elles, c'est une vraie révélation à laquelle je rajouterai quand même une chose. C'est une femme noire. Ce n'est pas seulement une noire, c'est une femme noire.
Et qu'est-ce que ça ajoute ?
Ça ajoute la singularité dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire que au fond, dans un grand lycée parisien comme Fénelon, il n'y a pas beaucoup de femmes d'abord, il n'y a pas beaucoup de femmes noires non plus. Et donc c'est évidemment cette singularité-là qui fait qu'elle va essayer de trouver, oui, des relations. des amitiés. Et les amitiés, j'allais dire naturelles vers laquelle elle va se tourner, ben c'est la bourgeoisie de femmes noires qui vivent en France, qui viennent de Guinée, qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent du Sénégal, qui viennent du Mali, qui viennent du Cameroun, qui viennent du Gabon, qui viennent de Centrafrique. Et c'est bien ça qu'elle va essayer de retrouver. Pourquoi ? Parce qu'il y a des histoires qui se retrouvent, des histoires coloniales qui se retrouvent à Paris. Il y a la singularité qui est la singularité de la couleur noire. Il y a l'autre singularité qui est la singularité des femmes. Donc évidemment, elle va aller du côté en fait de ces singularités, mais qui sont en fait ce que j'appellerais des apparentements naturels. Et donc c'est bien ça qui en fait va nourrir à la fois le rapport qu'elle va entretenir avec la France, le rapport qu'elle va entretenir avec les femmes, le rapport qu'elle va entretenir avec la couleur noire, le rapport qu'elle va entretenir avec l'Afrique, et évidemment tout le rapport qu'elle va entretenir un peu plus tard avec la Martinique, la Guadeloupe, et y compris les États-Unis.
La singularité de la couleur noire, dites-vous, et dans le même temps, Françoise Vergès, lorsqu'elle se rend en Afrique, lorsqu'elle part vivre en Afrique, Marie Scondé, elle réalise que cette singularité n'est pas si spécifique que ça. Elle réalise au fond que même elle, en tant que noire, lorsqu'elle arrive vivre en Afrique, elle n'est pas considérée comme les autres, elle n'est pas considérée comme les autres noirs.
Oui, elle fait cette découverte que finalement, elle est noire, mais les femmes africaines auprès de qui elle vit ne la considèrent pas comme une des leurs. Et à partir de là aussi, je pense chez Marie, ça va développer aussi le fait de se méfier des certitudes. Elle les remettait constamment en cause. Elle aimait contredire, mais au bon sens du terme. Je veux dire, vraiment, de dire, non mais tu dis ça, mais est-ce que tu as considéré cet aspect ? Elle détestait être enfermée dans des catégories. Elle était une femme, elle était noire, mais ce n'était pas que ça qui la faisait. Et on voit d'ailleurs dans ses livres, elle parle des sentiments aussi, de l'amour, de ce qui l'attire chez les hommes. C'est une femme passionnée, qui a des amours passionnés, et elle veut absolument aussi avoir ce cheminement. Elle veut revendiquer l'individualité, non pas l'individualisme, l'individualité d'un cheminement.
Pourquoi part-elle vivre en Guinée ?
Elle veut retrouver l'Afrique aussi. Puis, je veux dire, en France.
Elle veut retrouver ou elle veut trouver ?
Les deux, je pense. Trouver et retrouver, parce que toute personne noire dans le monde a une idée de l'Afrique avec elle. Parce que on transporte ça avec. Donc elle y va, c'est aussi parce qu'elle fréquente en France à l'époque toute une diaspora africaine qui est très active dans les arts et la culture. Puis c'est toute l'ébullition sur le continent africain des indépendances, de tous ces nouveaux régimes. Et donc elle est attirée par ça, puisqu'en plus elle vient de ce silence. De la Guadeloupe. Elle vient de ce silence, elle vient du silence en France aussi, où on parle pas de ça. Donc elle se dit, là, je vais peut-être quand même au moins avoir des réponses à mes questions. Puis elle voit qu'elle va, certaines de ces questions, elle trouve des réponses, qui sont ses réponses à elle, et puis d'autres questions qui vont rester des questions, et qui vont continuer justement à nourrir ce cheminement qu'elle va avoir.
Romuald Fonkawa, le rapport qu'elle entretient avec la France est aussi un rapport complexe, car ce pays, ses institutions, ne lui donnent pas la place qu'elle mérite, et notamment les institutions universitaires. Comment, a posteriori, au vu de son succès, notamment littéraire, on l'explique ?
C'est une bonne question. C'est une bonne question française. La particularité de ce pays, enfin, du moins l'expérience que j'en ai, c'est que la plupart des intellectuels sont des intellectuels noirs qui viennent d'Afrique, des Caraïbes ou bien des Antilles, sont bien formés en France, mais vont ensuite ailleurs. Et ne sont reconnus en France que quand ils viennent d'ailleurs. L'expérience de Marie
Scondé. Et quand ils réussissent ailleurs aussi, sans doute.
Surtout quand ils réussissent ailleurs. L'expérience de Marie Scondé, je peux vous faire une liste à la Prévert, de ceux qui connaissent à peu près cette expérience-là. Et je me tourne vers ma voisine de gauche pour vous faire exactement la même réflexion. Quand vous l'avez présenté tout à l'heure, vous avez dit Berkeley, vous n'avez pas dit Paris. C'est assez intéressant quand même, son rattachement universitaire. Oui, c'est un rattachement qui fait que, c'est ailleurs que l'on reconnaît, en fait, la formation qui est la formation française pour tous ceux qui ne sont pas français. Mais peut-être que ce que je dis là doit être nuancé par le fait qu'il y a plusieurs Français aussi qui ne sont reconnus en France que parce qu'ils sont allés ailleurs, parce qu'ils sont allés à l'étranger. Là aussi, je peux vous faire une liste à la Prévert de tous ceux qui, en France, aujourd'hui, sont cités intellectuellement parce qu'ils ont fait une carrière américaine. Et parce que c'est aux États-Unis, effectivement, que l'on couronne, que l'on consacre, en fait, tous ceux qui sont formés en France. C'est le paradoxe, en fait, me semble-t-il, d'un certain nombre d'intellectuels ou d'écrivains français ou d'écrivains de langue française. Je peux faire la même remarque à propos d'Assia Djebba, par exemple. Assia Djebba, elle a fait une bonne carrière aux États-Unis, toute académicienne qu'elle était. Mais je pense que cette expérience-là est une expérience qui, dans le cas de Marie Scondé, est une expérience qui est assez intéressante, parce que cela va nourrir, en fait, sa littérature. Cela va nourrir son imaginaire. Et je crois que ça va en plus la pousser à comprendre qu'il n'y a peut-être pas seulement la France dans le monde. Son époux et son compagnon, Richard, est anglais. Donc, ils n'ont pas moins vécu en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou bien en Guadeloupe. Ils n'en ont pas moins vécu aux États-Unis. Donc, il y a bien sûr cette sorte de dimension que j'appelle une dimension à la fois cosmopolite et universelle qui caractérise au fond son œuvre. Et son œuvre n'est pas une œuvre africaine seulement, ou une œuvre antillaise seulement, ou une œuvre américaine seulement. Et on voit bien que tous ses personnages, toute sa vie, est une vie que je peux considérer évidemment comme étant une vie mondiale.
Aux États-Unis notamment, elle construit ce qu'on appelle le centre d'études francophones de l'université Columbia à New York. Françoise Vergès, en quelques mots, qu'est-ce que ça lui apporte cette expérience? Qu'est-ce que ça ajoute là aussi à son œuvre littéraire?
Maryse aimait transmettre. Maryse aimait enseigner. Ses étudiants l'adoraient, ses étudiants et étudiantes. Elle avait cette dimension aussi, pas simplement donc de vouloir écrire, mais de vouloir transmettre. Elle aimait beaucoup, même quand elle parlait de ses livres, être entourée de jeunes qui lui parlaient. Elle aimait cette relation. Donc enseigner pour elle a été quelque chose pas d'à côté, mais qui nourrissait aussi son écriture. Et elle aimait faire découvrir la littérature. Vraiment. Et ça, pour elle, c'était quelque chose de formidable, que des jeunes se mettent à lire des livres, notamment évidemment de la littérature francophone. C'était vraiment très important pour elle. Moi, je l'ai vu, j'ai assisté à certains de ses cours, mais les étudiantes et étudiants l'adoraient.
Et le documentaire que vous lui avez consacré le montre bien, ces moments où ces étudiants lui rendent hommage. On y reviendra avec vous deux, Françoise Vergès et Romuald Foncoua, et notamment on reviendra sur l'œuvre de Maryse Condé. On va tenter d'y pénétrer, ce sera à partir de 8h20.
France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait.
Suite de notre conversation sur Maryse Condé et son œuvre. Maryse Condé est disparue cette semaine à l'âge de 90 ans. Une discussion avec Françoise Vergès, politologue à l'université Berkeley, autrice, et Romuald Foncoua, professeur de littérature à l'université Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Présence africaine. Et pour poursuivre, je voulais reprendre avec la voix de Maryse Condé, une voix que l'on entendait, je suis en train de chercher la date, mais je vous la donnerai après.
Je pense que la littérature est un fait totalement individuel. Chacun fait sa littérature, chacun crée son style. Maryse Condé crée sa façon d'écrire, Glissant la sienne, Chamoiseau la sienne, etc. Donc il n'y a pas de règle. Chaque écrivain, en fonction de son histoire à lui, en fonction de ses problèmes personnels, de sa vision du monde, de son rapport au monde, crée un langage qui n'appartient qu'à lui. On n'a pas le droit de demander à une littérature faite par des individus isolés de répondre à une sorte de besoin global édicté par l'autre. La plupart du temps, on veut imposer à l'écrivain antillais une série de tâches, de fonctions, on veut lui donner une voix. Et alors qu'en fait, il est absolument libre de créer sa voix et d'agir selon son imaginaire.
Maryse Condé dans Avenue sur France Culture en 2005, c'était cela, Françoise Vergès, la littérature pour Maryse Condé, c'est-à-dire un espace de dépliement de la singularité, un espace où la liberté est totale pour celui qui écrit?
Oui, Maryse détestait les normes, les enfermements. Elle voulait, et particulièrement, je pense, quand on est une femme noire de Guadeloupe, les injonctions à écrire de telle ou telle manière, ou de faire ou telle littérature, des choses que Aimé Césaire aussi et Frantz Fanon ont toutes profondément critiquées. Et elle voulait dire, mais bien sûr que je pars de là. Bien sûr que ça existe, je suis Guadeloupe, je suis une femme noire, mais ça ne m'oblige pas à écrire de telle ou telle manière. Et elle disait d'ailleurs, j'écris en Maryse Condé, quand on lui demandait, mais en quelle langue vous écrivez? Elle dit, j'écris en Maryse Condé.
Qu'est-ce que ça voulait dire, écrire en Maryse Condé? Comment est-ce que vous définiriez cette écriture-là?
Ben, elle avait justement trouvé sa manière d'écrire. Elle écrivait en français, mais à manier la langue française de telle manière que ce soit pas le français, on pourrait dire, de la grande littérature, si tant est qu'elle existe, mais elle met à l'intérieur de cette écriture son expérience de la vie et sa connaissance de l'histoire. Donc c'est, et elle n'utilise pas le créole, par exemple. Elle ne veut pas faire de l'exotisme ou du folklore, mais on sent que sa langue est traversée par d'autres langues.
Sur la forme, Romuald Foncoy, écrire en Mariscondé, comment est-ce que vous le décririez justement? C'est-à-dire, au fond, quel est le travail qu'elle opère sur la langue?
Est-ce que écrire en Mariscondé rejoint la question de la langue? Pour moi, ce serait secondaire. Écrire en Mariscondé, c'est écrire Mariscondé. Et je pense que dans toute l'œuvre de Mariscondé, on retrouve Mariscondé, qui se cache derrière des personnages, qui se cache derrière telle ou telle situation historique, qui se cache derrière tel ou tel paysage. C'est en fait, Mariscondé a passé son temps à écrire l'histoire de Mariscondé. Tituba, c'est Mariscondé. Victoire, c'est Mariscondé. Ségou, c'est Mariscondé. Et c'est ça, pour moi, en fait, la première définition que je dirais de Mariscondé écrivant en Mariscondé, c'est Mariscondé écrivant Mariscondé. Ensuite, ben, il y a la question de la langue. La question de la langue est une question qui, d'une certaine façon, et elle le disait d'ailleurs tout à l'heure, conduit à trouver son style, à trouver sa manière, à trouver sa forme. Et je pense qu'il n'y a pas, de ce point de vue-là, une seule forme Mariscondé. Il y a des Mariscondé, en fait. Le Mariscondé de Victoire et Saveur et le Mot, c'est pas la Mariscondé de La Vie sans phare, c'est pas la Mariscondé de Moi Tituba, sorcière noire de Salem. Non, il y a des Mariscondé dans Mariscondé en termes de langue, en termes de style, en termes de forme. Et si c'est le roman, c'est plusieurs Mariscondé. Si c'est le théâtre, c'est encore d'autres Mariscondé. Si c'est l'essai, c'est encore d'autres Mariscondé. Je pense que c'est plutôt comme ça que je verrais des multiples Mariscondé dans écrit Mariscondé, en fait.
Vous évoquiez un peu plus tôt dans notre conversation, Romuald Foncoy, un roman en particulier, son premier roman à succès, Ségou, qui est apparu en 1984, qui s'inscrit au Mali. Là encore, l'usage de l'histoire est absolument primordial, il est central. Comment est-ce que vous décririez là aussi ce grand roman du Mali?
Ben, justement, ce qui est intéressant chez Mariscondé, c'est qu'elle est une grande romancière malienne.
C'est-à-dire
ben, elle a écrit la grande fresque historique du Mali à travers Ségou. Et donc, pour l'écrire, il faudrait se mettre dans la peau, si j'ose dire, n'est-ce pas, de l'histoire du Mali, pour écrire, n'est-ce pas, l'histoire du Mali. Ça rejoint un peu la multiplicité, en fait, des formes dont je parlais à l'instant. Et c'est la première à avoir, dans l'histoire de la littérature francophone, africaine ou noire antillaise, à avoir écrit une fresque qui est une fresque historique avec, alors là, pour le coup, tous les codes du roman historique. C'est-à-dire qu'au fond, elle sait très bien ce qu'elle fait en écrivant Ségou, parce qu'elle a une connaissance assez fine des codes de la littérature. Mais cette connaissance assez fine des codes de la littérature, elle les applique à un lieu qui n'a pas connu encore cette forme-là, donc c'est le Mali. Mais évidemment, l'avantage de cette connaissance, c'est qu'elle donne corps à quelque chose que l'on sait par ailleurs dans l'histoire, qui est l'histoire orale du Mali, mais qui n'a pas encore pris place dans l'histoire que j'appelle l'histoire française, en fait, du Mali, telle qu'on peut l'écrire en roman.
Une Antillaise qui se plonge, qui raconte l'histoire du Mali, comment est-ce que cela a été reçu en Afrique de l'Ouest?
Ben, très bien. Elle était de l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas oublier que son mari est guinéen, quand même, et qu'elle a vécu en Côte d'Ivoire, qu'elle a vécu au Sénégal. Enfin, Mariscondé, c'est une Africaine. Et je crois que de ce point de vue-là, quand elle écrit Ségou, on ne voit même pas qu'elle est guadeloupéenne, en fait. Parce que ça ne se sent pas dans son écriture. Quand je disais tout à l'heure qu'elle était une écrivaine malienne, c'était pas simplement une forme de provocation, mais c'est qu'en gros, on ne voit pas que cette dame n'est pas du tout africaine. Ben, c'est un peu comme Maya Angelou écrivant sur le Ghana, par exemple. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agit là de gens qui se sont appropriés une histoire, parce qu'ils font de cette histoire la leur. Et ils la font tellement la leur qu'en fait, ils peuvent en fait en donner une marque qui est une marque romanesque. Et je crois que c'est ça, en fait, la grandeur de Mariscondé.
Françoise Vergès, l'autre grand roman de Mariscondé, c'est sans doute Moi, Tituba, sorcière. Ce roman-ci s'inscrit aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il raconte, au fond?
Oui, donc la découverte que dans les femmes accusées de sorcellerie à Salem, grande histoire dont Henri Miller a fait une grande pièce. Enfin, je veux dire, donc c'est vraiment une histoire importante parce que, en général, quand on pense à la chasse aux sorcières, on pense à l'Europe et on voit que ça existait là-bas. Donc, ce fait d'accusation de femmes, de choses terribles qui vont aussi purifier la société, donc toutes ces idées. Et elle découvre qu'il y a une femme noire. Donc elle invente aussi son histoire à partir de bribes. Et ça, c'est aussi une chose importante, c'est que très souvent, nous avons que des bribes d'histoire ou des fragments. Nous n'avons, je veux dire, par exemple, pour les esclavisés, vous n'avez dans le monde esclavagiste français, pas d'autobiographie. Donc, vous partez de bribes et de fragments et vous construisez votre histoire. C'est ce qu'elle fait avec Tituba. Et elle nous restitue la vie et la présence de cette femme. Elle a cette capacité de nous la restituer, de faire que cette femme existe et ne soit pas simplement deux lignes dans des archives. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça fait partie de tout un mouvement dans beaucoup de pays qui ont été colonisés, de partir de bribes et de fragments, de dire c'est pas parce que nous avons de bribes que des bribes et des fragments que nous n'avons pas d'histoire. Moi, nous avons des récits.
Moi, Tituba, sorcière, un extrait.
À Bridgetown, Susanna Endicott, ma première maîtresse, m'avait déjà appris qu'à ses yeux, ma couleur était signe de mon intimité avec le malin. À Salem, cette conviction était partagée par tous. Aussi, l'on venait furtivement nous trouver pour tenter d'assouvir d'inavouables désirs de vengeance, se libérer de haine et de rancœur insoupçonnables et s'efforcer de faire mal par tous les moyens. Tel que l'on croyait un époux dévoué ne rêvait que de la mort de sa femme. Tel que l'on croyait la plus fidèle des épouses était prête à vendre l'âme de ses enfants pour en supprimer le père. Le voisin voulait l'extermination de la voisine, le frère de la sœur. Il n'était pas jusqu'aux enfants qui ne souhaitaient en finir de la manière la plus douloureuse qui soit avec l'un ou l'autre de leurs parents. Et c'était l'odeur fétide de tous ces crimes qui ne cherchaient qu'à être commis qui achevait de faire de moi une autre femme. Oui. Je devenais une autre femme, une étrangère à moi-même.
Moi, Tituba, sorcière, c'était dans Théâtre et Compagnie sur France Culture en 2020, interprété ici par Mata Gabin. Françoise Vergès, on observe ici que tout s'entremêle au fond, toutes les thématiques propres et à la singularité de l'œuvre de Maryse Condé, le rapport à la couleur de peau, le rapport à la condition féminine, c'est ça aussi ce roman, c'est au fond l'enchevêtrement de tout ce qu'elle était.
Oui, et elle parlait d'ailleurs dans plusieurs interviews de sa relation aux femmes, du fait que pour elle, c'était, elle voulait parler, elle voulait faire vivre des personnages de femmes noires, de femmes africaines, antillaises, ou même aussi d'Afrique du Sud, ou d'ailleurs. Elle voulait vraiment, elle, dans leur complexité, en dehors des stéréotypes. Et là, elle parle à la fois d'être faite noire par le regard de l'autre, de la femme blanche, mais aussi donc de ce patriarcat dominateur et de la production, dans l'extrait que vous avez donné, de comment on produit de la division à l'intérieur d'une communauté. C'est-à-dire que les personnes les plus proches se tournent les unes contre les autres. Et comment on fabrique la haine à l'intérieur même d'une même communauté, entre même parents, dans une même famille. Et ce qui est un phénomène, évidemment, qu'on connaît aussi à travers des génocides, des massacres, et qu'elle fait apparaître. Donc c'est vraiment, à travers ce personnage, elle parle de questions qui sont devenues ensuite de plus en plus importantes, hein, qui sont discutées, qui font des ouvrages, des films, des documentaires sur la question de comment arrive justement, on fabrique de la haine et qui fait que des membres d'une même communauté vont être tués, assassinés, et que cela va être justifié par une idéologie.
Dans tous les hommages qui sont rendus à Maryse Condé depuis quelques jours, ce qui frappe, c'est que la majorité d'entre eux restent dépolitisés. On parle très très peu au fond de son rapport à la Guadeloupe, de son combat pour l'indépendance de la Guadeloupe. Comment ça vous l'expliquez, Françoise Vergès ?
Ah, vous avez tout à fait raison. Il y a une manière de rendre hommage et de pacifier quelqu'un, de la banaliser. Vous voyez, ça veut dire.
On veut le rendre consensuel.
Oui, Maryse va devenir une petite dame gentille. Mon Dieu, mais c'était tout à fait le contraire de Maryse, qui était caustique, ironique, comme le disait Romuald, quand elle avait des inimitiés, elle le faisait savoir avec une langue vraiment là, très forte.
Elle portait ses coups.
Ah oui, elle portait ses coups. Elle était très moqueuse. Elle pouvait être très moqueuse. Elle était très vivante, quoi. Et là, on la transforme en petite dame de la littérature francophone. Pour celles et ceux qui l'ont connue, c'est absolument insupportable. Elle était, comme vous le dites, elle a été ce qu'on appelait tiers-mondiste, hein, dans sa jeunesse. Elle a été toujours pour les indépendances. Elle admirait énormément Fanon. Elle disait qu'elle était partagée entre Césaire et Fanon. Et elle était pour l'indépendance de la Guadeloupe. Oui, c'était une indépendantiste. Elle a même participé à une campagne électorale. Elle a été candidate. Cette écrivaine a été candidate dans une élection. Elle avait à cœur vraiment la Guadeloupe jusqu'à la fin de sa vie, de cette relation de domination à cette petite terre. Elle a participé, elle a été la présidente du premier comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Elle s'est battue, elle s'est engagée. C'était quelqu'un qui n'était resté pas en dehors des engagements. Elle y a participé. C'était pas quelqu'un qui a occupé une position pour occuper une position. Quand il y était, elle y était. Et là, elle s'est battue pour effectivement tout ce que comprenait la loi dite Taubira de 2001 de reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité.
Vous avez mentionné Frantz Fanon, son maître à penser. On va entendre là encore Maryse Condé qui évoque la comparaison entre Frantz Fanon et Aimé Césaire. C'était dans votre documentaire, Françoise Vergès.
J'ai lu Fanon sans comprendre. Je l'ai haï parce que c'était pour un masque blanc que j'ai pas du tout compris, que j'ai pris comme un livre de dénonciation des Antillais. J'ai pas vu qu'il y avait une analyse de eudaimonisation dont j'étais un exemple éclatant. Césaire, on peut dire, c'est le retour spirituel à l'Afrique, le devoir de mémoire. Nous sommes tous d'origine africaine. Il n'y a ni Martiniquais, ni Guadeloupéens, ni Guyanais. Il n'y a que des Noirs qui viennent de l'Afrique. Fanon, au contraire, dit le nègre est une invention de l'Europe. S'il n'y avait pas l'Europe, s'il n'y avait pas le monde blanc, nous sommes tous très différents. Et nous avons, chacun d'entre nous, des choses différentes à porter au monde.
Romuald Foncoua, peut-être que dans la lignée de Frantz Fanon, l'œuvre de Maryse Condé, c'est de dire, c'est de raconter la pluralité de ces existences noires.
Oui, oui, c'est exactement cela, je pense, dans l'œuvre de Maryse Condé, et je dirais la pluralité des existences féminines noires aussi. Tout à l'heure, parlant justement de Tituba, en vous écoutant, j'étais en train de me dire que la particularité justement de Maryse Condé, c'est d'aller raconter les histoires infinitésimales de tous les Noirs du monde, de les rassembler, de rassembler les bribes pour en faire une grande histoire, de la petite histoire en faire une grande. Et je crois que ce que Fanon, au fond, a sans doute compris très tôt, et quand Maryse dit « je l'ai lu sans vraiment comprendre », je ne suis pas sûr que ce soit très vrai, mais ce que Fanon a très bien compris, c'est quelle est la place que la grande histoire donne à ceux qui viennent de la petite. Et comment est-ce que ceux-ci vivent, en fait, ce rapport justement à la grande histoire. Or, ce rapport à la grande histoire, il passe par la couleur de peau. Peau noire, masque blanc. Donc évidemment, de ce regard que l'on peut porter sur un individu en le réduisant justement à sa couleur, vient justement le rapport qu'il peut avoir à la grande histoire. Psychique pour Fanon, oui, mais historique pour Maryse Condé. Je pense qu'il y a là, en fait, un rapport qui est un rapport absolument évident, et tellement évident que la découverte, je pense, de Fanon par Maryse Condé va la conforter dans la psychologie qu'elle peut donner à ses personnages. Et toute l'importance qu'elle donne, par exemple, à ses personnages de femmes, de Victoire, qui est sa grand-mère, ou de Tituba, qui est en fait l'esclave noir venu de la Barbade, cette psychologie-là, on peut la retrouver précisément dans la façon dont Fanon a analysé, au fond, le rapport que les descendants d'esclaves, les colonisés, entretiennent avec justement la grande histoire. La grande histoire de la République, la grande histoire de France, la grande histoire métropolitaine, la grande histoire coloniale, si on veut.
Françoise Vergès, je vous ai proposé de lire un extrait de Maryse Condé. Vous avez choisi « La vie sans phare », c'est l'autobiographie qu'elle a signée. Je vous cède la parole.
Oui, et c'est aussi parce que j'aime ce titre, « Sans phare », ce qui était vraiment Maryse. Elle était sans phare. Elle n'essayait pas de se présenter autrement qu'elle n'était. Donc là, c'est vraiment un très beau livre pour celles et ceux aussi qui voudraient connaître qui a été Maryse Condé. Donc c'est à la fin. Cependant, mes projets d'écriture n'étaient pas enterrés, loin de là. Bien souvent, je refusais de passer la nuit avec Mohamed, qui ne comprenait pas pourquoi je préférais m'enfermer seule pour taper sur une machine à écrire. Je n'arrêtais pas de corriger ce qui allait devenir mon roman et Irma Konon. À mon insu, le texte avait changé de nature. Ce n'était plus un simple récit inspiré de mes expériences personnelles. J'étais devenue plus ambitieuse. Je m'étais mise à gommer les spécificités qui auraient pu rattacher mes héros à des modèles simplement humains et identifiables. J'entendais donner au choix de l'héroïne Véronica une portée symbolique plus large. Ibrahim, Sori, le nègre avec aïeux, et Saliou, le militant, devenaient les symboles des deux Afriques qui se combattaient. Celle des dictateurs et celle des patriotes. En bref, celle de Sékou Touré et celle d'Amilcar Cabral. Une telle ambition éclaire une phrase qui m'a si souvent été reprochée parce que mal comprise, celle de Véronica, maîtresse de Ibrahim Sori. Je me suis trompée d'aïeux, j'ai cherché mon salut parmi des assassins. Et la dernière phrase de ce récit, qui un peu répond à plusieurs questions que nous sommes posées. L'Afrique enfin adoptée se métamorphoserait et se coulerait soumise dans les replis de mon imaginaire. Elle ne serait plus que la matière de nombreuses fictions.
Romuald de Foncoy, je vous ai vu acquiescer plusieurs fois pendant cette lecture. C'est vous que je voudrais faire réagir au choix de Françoise Vergès.
Je pense que c'est un choix qui est judicieux parce que ça résume assez bien, de mon point de vue, Maryse Condé, au fond. Maryse Condé, c'est la fiction. Quand je parle de plusieurs Maryse Condé, en fait, Maryse Condé, c'est la fiction. Elle l'a compris assez tôt que la seule manière pour elle d'exister, c'est d'exister par la fiction. J'allais dire que rien n'est vrai, tout est fictionnable. L'idéologie, les paysages, les territoires, les amants, les maris, les enfants, tout cela est fictionnalisable. Et je pense que c'est à l'intérieur de la fiction qu'elle se sent le mieux en accord avec elle-même, qu'elle se sent apaisée avec les autres, hein, qu'elle peut entrer en relation avec quiconque sans tension et sans conflit. Je crois que c'est ça, en fait, le rapport à Maryse Condé, c'est d'abord la fiction. Et je crois que c'est la fiction qui l'a en plus sauvée, je crois, de la tentation idéologique. Elle a été de tous les combats. Idéologiques de l'Afrique, de tous les combats, idéologiques de la Guadeloupe, de tous les combats, idéologiques des nègres, de tous les combats. Et elle en a gagné au moins un, qui est justement celui de tout mettre en fiction. Et c'est en fait ça qui la résume, je pense.
Je vous ai proposé, vous aussi, de lire un extrait. On ouvre une nouvelle porte, cette fois-ci, le rapport de Maryse Condé à la nourriture, à la cuisine même. Je vous cède là aussi la parole, Romuald Foncoy.
Oui, alors l'extrait que je vais vous proposer, c'est le début de Victoire, les saveurs et les mots, et qui raconte en fait l'histoire de sa grand-mère, qu'elle n'a pas connue et qui était cuisinière. Et donc tout le récit est astucieusement construit de telle façon à ce que l'on voit dans cet hommage rendu à la grand-mère, l'hommage rendu à l'écrivaine. Donc c'est très court, c'est vraiment le début. Elle est morte bien avant ma naissance, quelques années après le mariage de mes parents. Je ne connaissais d'elle qu'une photographie couleur sépia signée Caton, le meilleur artiste de l'époque. Posée sur le dessus du piano où je faisais mes gammes, la femme qu'elle représentait portait une robe ornée d'un large col de dentelle, ce qui lui donnait l'air d'une écolière. Impression renforcée par ses formes menues. Ses pieds minuscules étaient chaussés de souliers vernis à barrettes, pareils à ceux d'une première communiante. Un collier, grindo, enserrait son cou délicat. Quel âge avait-elle? Était-elle jolie? Je n'aurais su le dire. En tout cas, elle arrêtait le regard qui ne pouvait plus se détacher d'elle. À chaque fois, sa vue me causait un certain malaise. La mère de ma mère avait une peau d'une blancheur australienne. Ses yeux, pâles à la Rimbaud, enfoncés dans leurs orbites, étaient réduits à deux fentes asiatiques. Elle fixait l'objectif, sans l'ombre d'un sourire, sans nul souci de paraître gracieuse.
Et l'on finit donc avec la prose de Maryse Condé. Merci beaucoup à tous les deux, Françoise Vergès et Romuald Foncoy, de nous avoir éclairés sur cette œuvre, sur son existence d'une richesse inouïe. Il faut lire Maryse Condé. Il est 8h42 sur France Culture.
Ramasser mes amis sauvages.
Manuela Pioche, France Culture, il est 8h43.